Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Aujourd'hui, le thème de l'Évangile est le messager de l'Avent. Alors nous pourrions nous poser la question, mais qui est le messager et quel message vient-il nous donner? À travers cet Évangile, nous avons, me semble-t-il, plusieurs messagers et plusieurs messages. Jean-Baptiste est le messager qui nous apparaît bien sûr en premier. C'est lui qui, avant d'être mis en prison, annonce la venue du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous verrons dimanche prochain qu'il est la voix qui crie dans le désert. Le messager sait qu'il n'est pas facile de faire passer un message, surtout lorsqu'il n'est pas évident, ou lorsque les événements semblent aller à l'encontre de ce que vous annoncez, qu'il y a un doute qui, humainement, peut apparaître entre ce que vous annoncez et ce que nos sens perçoivent et notre cerveau interprète. Depuis la rencontre de ventre à ventre entre Jésus et Jean-Baptiste lors de la visitation, il y a une connivence, pourrait-on dire quantique. Alors Jean-Baptiste va faire appel directement à celui de qui il parle. Nous aussi, lorsque nous avons la possibilité de faire l'expérience personnellement de la rencontre de quelqu'un dont on nous parle en bien, nous allons l'écouter pour entendre son message directement. Et Jean-Baptiste envoie ses disciples à Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Dans la tête des disciples de Jean et je pense de tous les Juifs de l'époque, Jésus est un être à part. Il semble avoir une interprétation toute personnelle de la loi de Moïse. Et d'ailleurs, les pharisiens lui ont un jour demandé « Mais pourquoi ?» Les pharisiens et nous jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas. Et une des premières réponses un peu énigmatiques que le Christ donne à la question de Jean est « Et bienheureux celui qui ne trouvera pas en moi un obstacle qui le fasse trébucher. » En disant cela, le Christ montre l'écueil contre lequel Jean veut les prémunir. Quelle est l'attente? Quelle est l'espérance du peuple d'Israël? C'est qu'un sauveur vienne délivrer le peuple du joug de l'envahisseur. Et qu'est-ce qu'il voit devant eux? Il voit un homme doux, un homme humble, qui guérit les infirmes, les laissés pour compte. Cela a été annoncé par Isaïe. Et c'est ce que le Christ va redire, que tes morts revivent, que, nos cadavres, que mes cadavres se relèvent, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Le Christ rappelle ces paroles, non pour Jean, dans sa prison, qui connaît les textes de la loi et des prophètes, mais pour les disciples de Jean. Et pour le peuple, qui ont difficile de faire le lien entre cet homme Jésus et le libérateur annoncé dans les Écritures. Trébucher, perdre la foi, être scandalisé, c'est ce qui risque d'arriver lorsqu'ils verront le Christ mis à mort comme une brebis, acceptant jusqu'à la mort de porter les péchés du monde. Jean a envoyé ses disciples vers le Christ dans la crainte que face à ces événements, ceux-ci ne soient scandalisés au sujet de Jésus. Ainsi, le message devient le Christ, le messager devient le Christ qui rappelle les paroles d'Isaïe et met en garde la foule sur ce qui arrivera. Jean-Baptiste est un prophète. Et il a pu reconnaître le Christ dans la foule lors du baptême de Jésus. Il atteste que Jésus est le Fils de Dieu. devant la foule qui est là autour de lui, Jésus va montrer combien l'exemple de Jean-Baptiste est important pour ceux qui veulent suivre le Christ. La foule qui a entendu la question des disciples de Jean et la réponse que Jésus a faite pourrait douter de Jean-Baptiste, du baptême que peut-être il leur a donné. Et pour leur faire comprendre l'importance de Jean-Baptiste, il va leur poser trois questions sur leur perception de Jean-Baptiste. Est-ce un roseau agité par le vent? Un roseau plie et suit le sens du vent, il n'a pas d'axe. Est-ce là l'image que vous avez de Jean-Baptiste? Est-ce un homme vêtu d'étoffes précieuses? Jean-Baptiste courait-il après le confort, après l'abondance matérielle? Non, ça c'est l'affaire des grands du monde. Lui était vêtu de poils de chameau, tout l'inverse d'un homme guidé par l'avidité ou la cupidité. Était-ce un prophète? Et Jésus donne ici une réponse explicite. Oui, et même plus qu'un prophète. Jean-Baptiste est le seul prophète qui peut montrer de son vivant ce qu'il annonce. Le propre du prophète, c'est de prédire les choses à venir. Et Jean montre ce qu'il avait prédit. Voici l'agneau de Dieu. Il annonce la présence du Sauveur parmi nous. De plus, il a le privilège de baptiser son Seigneur. Et Jésus de conclure, il ne s'est levé parmi les fils de la femme personne de plus grand que Jean le Baptiste. Il n'y a pas eu de personne plus grande que Jean-Baptiste parmi l'humanité. Il le place ainsi dans le peloton de tête des grands hommes. Mais la phrase importante pour nous est « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui ». En quoi consiste la grandeur de Jean le Baptiste? Dans sa fonction de messager, d'annonceur de la venue du Christ, ou dans sa façon d'être au monde? Aux yeux de Dieu, la grandeur spirituelle d'une personne, et spécialement de Jean-Baptiste, c'est son humilité. Et il dira, Jean-Baptiste, « Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Il dira aussi, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean-Baptiste s'efface devant Jésus. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, celui qui a poussé l'humilité au paroxysme en s'anéantissant complètement, en se faisant le plus humble, le serviteur de tous, en délaissant sa divinité pour sauver l'humanité, c'est le Christ. Lui qui étant Dieu est devenu homme, qui en tant qu'homme a pris la condition d'esclave, de serviteur. Rappelons-nous le lavement des pieds du jeudi saint. Et lui qui, de serviteur, alla jusqu'à donner sa vie sur la croix. Il est difficile d'aller plus loin dans l'amour et l'humilité. Il dira, « Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Suivre le Christ, c'est entrer dans ce chemin d'humilité, comme lui et comme Jean-Baptiste. Dans le royaume de Dieu, la grandeur d'une personne se mesure à son humilité. Et l'humilité est le fruit de l'amour. Car l'amour, c'est faire passer l'autre d'abord, c'est se donner librement, sans rien attendre en retour. À nous de mettre nos pas dans les pas du Christ, dans les pas de Jean-Baptiste, et de devenir toujours un peu plus un petit. Tout homme terrestre ne devient grand que lorsqu'il met au monde le germe divin qui l'habite et qui le conduit à la vie éternelle. Au Seigneur soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen. Amen.